Vincent Diré des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une industrie qui pèse plus d'une centaine de milliards de dollars et qui compte parmi les grands gagnants de la crise sanitaire, boostée par les confinements successifs. Le jeu vidéo fait désormais partie de la vie de millions d'adultes et d'enfants dans le monde entier, au même titre que la musique, la télévision, le cinéma. Comme eux, il a sacrément évolué depuis son émergence à la fin des années 50 jusqu'à notre époque où l'on rêve de nouveaux développements virtuels. C'est ce que nous raconte Régis Monterrain dans le livre que vient de publier ce spécialiste du rétro gaming qui partage sa passion dans plusieurs médias spécialisés. Un livre volontairement grand public qui nous conte donc l'histoire du jeu vidéo, d'Atari à Microsoft et de Pac-Man à Lara Croft, précise le bandeau. Génération jeux vidéo de Régis Monterrain est paru aux éditions GM et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Régis Monterrain.
Bonjour.
Le jeu vidéo serait donc une affaire de génération au pluriel ?
Oui, exactement, puisque quand on retrace l'histoire du jeu vidéo, on se rend compte qu'il a débuté dans les années 40-50.
De combien de générations, donc, pour le coup, on peut dire qu'à chaque génération, ses jeux et ses supports ?
Oui, bah, tout à fait. C'est en fait, quand on reprend les décennies, on se rend compte que les premières générations, c'était simplement quelques petits écrans avec très peu d'animation. Et même le premier jeu vidéo, c'était sur un oscilloscope. Ensuite, on a eu sur les télévisions. Et puis après, ça a été également sur les consoles portables, les smartphones et puis les services connectés aujourd'hui.
Alors pour nous raconter la naissance du jeu vidéo, vous nous parlez pour commencer du grand-père et ensuite du père du jeu vidéo. Le grand-père, c'est un physicien américain qui s'appelle William Higginbotham, surnommé Willy par ses amis. À la base, sa spécialité, c'est le nucléaire. Hein. C'est incroyable, il a même participé à la conception de la première bombe atomique.
C'est exactement ça. En fait, cet homme, qui est donc un physicien, a travaillé sur la bombe nucléaire. En fait, il a travaillé notamment sur tout le réglage de la minuterie et il a participé au fameux essai de la bombe nucléaire à Alamogordo au Nouveau-Mexique. Et en découvrant ce qu'il avait fait, enfin à quoi il avait participé, il a été pris d'horreur et il a vraiment voulu utiliser sa science dans le divertissement.
Oui, il est devenu un militant de la non-prolifération, hein, ce qui était le cas d'ailleurs de beaucoup des scientifiques américains qui ont participé à l'élaboration de la bombe atomique. Alors, il travaillait à Brookhaven, hein, donc dans le Connecticut, sur la côte orientale des États-Unis, et c'est là qu'il a conçu ce premier jeu vidéo en 1958. Alors comment, racontez-nous Régis Monterrain, comment est-ce qu'il est passé de la bombe atomique au jeu vidéo ? Ça va pas de soi quand même.
C'est très compliqué en fait, c'est vrai quand on y pense, c'est un peu fou. Ce qui se passe, c'est que le laboratoire de Brookhaven sur Long Island, en fait, organisait des rencontres avec le public pour présenter voilà les inventions, les innovations de la science. Et cet homme, ce physicien, trouvait qu'il n'y avait pas assez d'intérêt et d'interaction avec le public. Donc, il a eu l'idée d'utiliser un oscilloscope pour créer un jeu de tennis qu'il a appelé Computer Tennis au début. Et qui est devenu Tennis for Two. Et le but, en fait, c'était vraiment que les enfants et leurs parents jouent avec ce jeu et se rendent compte que la science peut amener du divertissement. Et d'ailleurs, ça a été un tel phénomène que c'est des queues énormes qui se sont formées à côté du gymnase, en fait, où était organisée l'exposition. Et ce fameux Tennis for Two, en fait, est considéré comme l'un des premiers jeux vidéo, voire le premier jeu vidéo, puisqu'il y a des animations.
Alors la photo est dans le livre, hein, vous la publiez. C'est assez impressionnant. Hein, on n'est pas du tout dans un petit jeu comme aujourd'hui sur téléphone portable. Expliquez-nous à quoi ressemblait justement Tennis for Two.
Les Tennis for Two, en fait, c'était vraiment l'écran de l'oscilloscope qui était utilisé pour simuler le jeu de tennis. Donc on avait une barre verticale, une barre horizontale, et puis en fait, avec le déplacement du curseur, ça matérialisait la balle.
Mais alors comment on faisait pour jouer? Il y avait une manette, il y avait des boutons.
En fait, comment sur l'oscilloscope, donc il y avait plein de boutons pour régler. Alors il y avait, c'était pour régler la gravité, enfin ce genre de choses. Et le physicien a créé, enfin avec ses collègues, ils ont créé un espèce de petit boîtier avec une molette où on déplaçait en fait la balle en fait.
Alors on est en 1958, hein, je le répète, pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en lumière William Higginbotham et pas d'autres physiciens, parce qu'il y a d'autres prétendants au titre de pionnier du jeu vidéo, hein, vous les listez d'ailleurs à la fin du chapitre, bien avant 1958. Pourquoi vous avez choisi ce pionnier-là?
J'ai choisi en fait William Higginbotham et Tennis for Two parce que en fait, chez les spécialistes du jeu vidéo, enfin les historiens, c'est vrai qu'en général, ils retrouvent d'autres expériences les années avant. Mais Tennis for Two a une particularité, c'est qu'il est vraiment animé. C'est-à-dire que les autres expériences, en général, c'est par exemple un morpion, donc avec des signes qui apparaissent sur un écran, mais il n'y a pas d'animation à proprement parler. Et Tennis for Two avait vraiment cette interaction, cette animation de la balle, du jeu de tennis, et ça change tout en fait.
Quelle définition simple, Régis Monterrain, on peut donner à partir de ce moment-là du jeu vidéo? Quels sont les critères qu'il faut réunir pour parler réellement de jeu vidéo?
Alors c'est compliqué, mais je pense qu'en fait, il y a forcément le mot interaction. Il faut qu'il y ait une interaction homme et machine, forcément. Il y a également la présence d'un écran, donc là en l'occurrence c'est un oscilloscope, et il y a justement ces mouvements, c'est-à-dire ces animations d'éléments à l'écran qui fait que le jeu est totalement vivant, c'est pas simplement un symbole qui apparaît sur un écran.
Dernière partie, tout le monde dehors.
Je m'appelle Ralph Lacasse.
J'ai tout cassé.
30 ans que je fais ça. Ça devient difficile d'aimer son travail.
J'ai tout réparé.
Quand personne ne vous aime pour ce que vous faites.
Début de la bande-annonce des Mondes de Ralph, le film en images de synthèse des studios Disney qui raconte l'histoire de Ralph Lacasse, le héros mal aimé d'un jeu vidéo des années 80, un héros qui casse tout et qui rêve, vous l'avez compris, d'être aimé par tout le monde. Et si ce héros s'appelle Ralph, c'est un clin d'œil, un hommage à celui qu'on a surnommé cette fois le père du jeu vidéo, j'ai nommé Ralph Baer. Alors lui aussi vient du monde de l'électronique militaire, Régis Monterrain. C'est comme un peu comme Einstein, hein. C'est un juif allemand qui a émigré aux États-Unis pour fuir le nazisme. Il n'a pas tout à fait le visage de la caricature du geek qu'on peut avoir aujourd'hui.
Non, absolument pas, puisque cet homme qui a quitté l'Allemagne juste avant la nuit de cristal, en fait, a travaillé sur des appareils médicaux, notamment. Donc, il est passé un petit peu de société en société, jusqu'à se stabiliser chez un partenaire. Et mais c'est au fil de ses expériences, c'est toujours pareil, c'est au fil de ses expériences qu'il a eu l'idée de créer une console de jeu à base de films qu'on posait sur l'écran pour simuler par exemple un jeu de tennis, un jeu de hockey, par exemple le vert du tennis, le bleu de la glace pour le hockey, et évidemment à cette époque c'était très très limité avec deux petits points et puis une barre par exemple au milieu, quoi.
Donc la base c'est l'écran du téléviseur, quoi. C'est à partir de la fabrication de téléviseur qu'il a eu l'idée ensuite d'ajouter la création d'un jeu.
Oui, c'est ça. En fait, il a eu l'idée de au fil de ses expériences, il avait vraiment l'idée de créer un jeu qui soit interactif avec pareil un système de commande un petit peu comme Tennis for Two d'ailleurs avec des molettes. Mmh. Et mais sa particularité à Ralph Baer, c'est qu'il a eu l'idée justement d'ajouter justement ces films qui allaient simuler des terrains de par exemple sportifs. Donc, comme j'expliquais, donc le vert c'était pour le tennis ou le football, Le bleu, c'était pour le hockey. Et la différence, en fait, des jeux se traduisait simplement par l'animation du point sur l'écran, des points sur l'écran, qui allaient dans un sens différent, en fait, selon le sport, etc. Et l'autre particularité, c'est qu'il avait également un pistolet. Il avait inventé un espèce de pistolet photosensible qui permettait, par exemple, de simuler l'extinction d'un feu. Donc on pointait voilà son pistolet sur l'écran et l'écran réagissait comme si on pouvait justement éteindre éteindre des formes à l'écran et par exemple on pouvait simuler l'extinction d'un feu.
Alors il pose hein, effectivement dans le livre avec sa machine la Brown Box, hein, je crois que c'est comme ça qu'il a appelé son premier prototype, et il va travailler ce Ralph Bauer avec l'industrie du jouet. Il va en développer plusieurs, en particulier le Simon. Alors vous pouvez nous expliquer le principe du Simon, ça va peut-être dire quelque chose déjà à quelques-uns de nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Le Simon, en fait, c'est une espèce de memory. C'est un petit jeu circulaire avec des couleurs. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que donc les couleurs s'allumaient par exemple le rouge, le bleu, après le vert, etc. Et l'utilisateur devait reproduire l'allumage en fait des lumières. Donc si c'était par exemple rouge, bleu, jaune, le joueur devait faire rouge, bleu, jaune. Et au fur et à mesure les couleurs s'allumaient plus nombreuses.
D'accord, donc de plus en plus compliqué effectivement à reproduire pour le joueur. Il y a le Simon et ensuite il y a l'Odyssée. Alors de quoi s'agit-il, l'Odyssée ?
L'Odyssée, en fait, c'est tout simplement la forme commerciale de la Brown Box. La Brown Box, c'était vraiment le prototype, voilà. C'était le prototype qu'il a été développé par Ralph Bauer et ses collègues. Et la Brown Box, en fait, c'était donc ManiaVox. Ralph Bauer a signé un contrat avec ManiaVox pour créer une console à partir de la Brown Box, et ça a donné l'Odyssée, donc toujours avec ce système de films composés sur l'écran. Et ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, les films étaient dédoublés, parce qu'à l'époque, les écrans étaient soit de petite taille, soit de plus grande taille. Donc il fallait que la boîte contienne les films pour les petits écrans et les grands écrans selon les télévisions des familles.
Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les boutons. Vite une Pac-Man. Il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man! Inky, Pinky, Clyde et Mademoiselle Sourd sont des fantômes pas gentils du tout. Ils ont pour maître le méchant grippin. Mais Pac-Man s'en sort toujours, toujours très bien. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man.
William Lemergy, la chanson de Pac-Man dans VMDN sur RFI avec Régis Monterrain pour son livre Génération Jeux Vidéo chez GM Éditions. Alors Pac-Man, c'est sans doute l'un des plus célèbres des jeux d'arcade. La chanson explique assez bien le principe du jeu d'ailleurs. Régis Monterrain, c'est un jeu qui sort au Japon en 1980, mais c'est pas le premier jeu d'arcade, hein, loin s'en faut.
Non, tout à fait. En fait, faut remonter au début des années 70 hein, pour trouver les premiers jeux d'arcade, et notamment Pong. Et Pong, ce qui est intéressant, c'est que son créateur Nolan Bushnell a participé en fait à la présentation de la Brown Box de Ralph Bauer. Et c'est en s'inspirant de la Brown Box qu'il a eu l'idée de ce jeu de tennis qui est devenu absolument un succès international.
Oui, c'est ce qui a permis de démocratiser le jeu vidéo, écrivez-vous.
Oui, clairement. Ouais, Pong, en fait, a été une énorme révolution à l'époque. Tout le monde voulait y jouer, tout le monde voulait essayer cette expérience d'un nouveau genre. Et même si l'Odyssée donc est sorti à peu près à cette période, la différence avec Pong, c'est que c'était placé dans les cafés. Et souvent, en fait, les gens se retrouvaient en groupe, prenaient leur café ou leur bière, etc. Et puis après, ils allaient jouer et c'est devenu un vrai phénomène.
Oui, c'est ça le principe du jeu d'arcade, c'est-à-dire qu'on installe une borne de jeu dans les lieux publics, les bars, les restaurants, les parcs d'attractions, les galeries commerciales, etc.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un jeu vidéo qui va être placé dans les lieux publics, même les cinémas, etc. Et le but, c'est tout simplement de proposer des expériences, en général, qui sont assez courtes mais difficiles, parce que ça permet en fait aux joueurs de remettre des pièces dès qu'ils perdent la partie. Donc c'est un vrai gagne-pain, comme on dit, quoi. Mais ça a été un vrai phénomène. Alors il y a eu Pong, il y a eu Computer Space également, qui est une espèce de simulation spatiale.
C'est une invention américaine.
Voilà, c'est ça. Et Computer Space était vraiment très compliqué à mettre en place, parce qu'il fallait carrément lire la notice. Enfin, c'était vraiment compliqué à mettre en place. Et Pong a été la matérialisation d'une application beaucoup plus aisée pour le public, à partir de Computer Space. Mais Pong, en fait, a vraiment démocratisé le jeu d'arcade, et puis après, le fameux Space Invaders par la suite, quoi.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors, on le disait, hein, Régis Monterrain, au départ, le jeu d'arcade est surtout américain. Et Space Invaders, c'est la réplique japonaise en 1978. On peut dire qu'elle va plus loin que ce qu'avaient fait jusqu'ici Atari, Nolan Bushnell et Pong.
Oui, tout à fait. Rien qu'en termes de technique, on est plusieurs années après Pong. Et donc, la technologie a évolué. Et on se retrouve justement avec donc un petit vaisseau qui doit viser des aliens, enfin des envahisseurs un peu en forme de personnages marins. Et ce qui est vraiment intéressant avec Space Invaders, c'est que ça a été un tel phénomène que le Japon s'est retrouvé en pénurie de pièces, de monnaie, parce que les gens jouaient tellement que y a eu une pénurie de pièces. Ce jeu a vraiment la particularité, en fait, d'avoir donc certes une animation, mais c'est surtout qu'en fait on a un défilement des ennemis qui se rapprochent de plus en plus vers le bas, et le joueur a une espèce de frénésie justement pour ne pas se retrouver acculé par les aliens.
Alors, c'est donc la société japonaise Taito qui développe Space Invaders. Et il sera ensuite, ce jeu, développé aux États-Unis, développé sur Atari. Donc on n'est plus dans la concurrence bête et méchante.
Non, c'est pas vraiment. Enfin, c'est vrai qu'au début, donc c'est plus des marchés parallèles, en fait, qui vont se développer. Par exemple, les Japonais vont s'inspirer de Pong, etc., pour créer leur jeu. Mais c'est vrai que très vite, il va y avoir une internationalisation, de tous ces jeux. Et forcément, Atari, qui se retrouve plus tard avec l'Atari 2600, la console, va vouloir utiliser les jeux à succès, comme plus tard, par exemple, Pac-Man aussi, pour retranscrire ces jeux sur cartouche, et pour que le public il puisse y jouer à la maison, en fait.
Alors, Pac-Man, justement, on l'a évoqué très très brièvement tout à l'heure en écoutant la chanson, mais en quoi ce jeu marque-t-il, sinon un tournant, du moins une étape importante dans la commercialisation du jeu vidéo?
Alors, le jeu Pac-Man, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, la base, c'est que le créateur est en train de manger une pizza, donc il a mangé une pizza, il a pris une première part, et puis en regardant sa pizza, il s'est rendu compte que la pizza à trois quarts faisait un personnage.
Ah voilà, d'où l'idée du personnage de Pac-Man, cette rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, comme le chantait l'énergie.
Exactement, et d'ailleurs, c'était pas Pac-Man au début, c'était Puck-Man, avec un U. Mais les petits Américains se sont amusés à gratter le P et ça a donné la fameuse insulte. Donc du coup ils ont vite changé le U pour que ça devienne Pac-Man.
D'accord, mais c'était vraiment un héros populaire déjà Pac-Man, c'est-à-dire que dans les cours de récréation, on parlait de lui, on commençait comme ça à jouer, alors pas forcément dans la cour de récré, mais chez soi, et puis après on échangeait entre camarades.
Oui, tout à fait. En fait, Pac-Man, la particularité du jeu, c'est que les fantômes que doit gober le personnage quand il prend les gommes, en fait, les fantômes s'éloignent et on peut les gober. Et la particularité des fantômes de ce jeu, c'est qu'en fait, ils se déplacent de manière aléatoire. Ils ont tous une façon d'approcher le personnage. C'était une sorte d'intelligence artificielle qui était développée pour la première fois, en fait. Et donc ça a été vraiment un phénomène à ce niveau-là. Après, le Pac-Man avait également le créateur voulait aussi que le jeu vidéo puisse parler aux femmes. Et alors c'est un petit peu misogyne dans un sens, mais en fait il s'est dit les femmes elles aiment bien manger, donc je vais faire un jeu qui parle un peu de nourriture, voilà.
Ah d'accord, effectivement c'est complètement misogyne.
C'est devenu un jeu intergénérationnel et voilà exactement. Mais c'était vraiment son idée de base en fait. Il s'est dit les femmes aiment bien manger, donc je vais pouvoir faire un jeu voilà sur la nourriture, ce genre de choses.
Mais c'est-à-dire que jusqu'ici,
oui, ça a été un vrai phénomène.
Mais jusqu'ici, Régis Monterrain, le jeu vidéo était d'une pratique exclusivement masculine.
Pendant très 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 longtemps, c'est resté masculin, surtout dans les salles d'arcade en fait, où pendant très très longtemps, c'était des lieux qui étaient assez mal famés. Il y avait pas mal de, enfin on va dire à l'époque c'était les loubars, enfin à l'époque on fumait dans ces lieux-là, donc c'était des lieux qui étaient pas très sécurisés. Et les parents aimaient pas trop que leurs enfants aillent dans les salles d'arcade. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là, également, que les créateurs japonais ont développé des jeux qui soient moins portés sur la bagarre ou sur le tir. Pac-Man avait justement cette envie de ramener un peu, de parler à tout le monde et pas simplement les gros loubards et...
Alors il y a Pac-Man et puis parmi les autres personnages qui appartiennent à la culture populaire du jeu vidéo, il y a aussi Donkey Kong et Mario. Dans votre livre « Génération jeux vidéo » Régis Monterrain, vous nous racontez aussi l'histoire de Donkey Kong et de Super Mario, car ils se connaissent bien ces deux-là à la base.
Exactement, puisque Mario, en fait, à la base, s'appelait Jumpman. Et c'était ce fameux petit charpentier qui monte des échelles, en fait, pour sauver... donc, à l'époque, c'était Pauline, cette femme qui était emprisonnée par Donkey Kong, le gros gorille. Et donc le joueur devait monter les échelles, éviter les tonneaux que lui lançait Donkey Kong. Ça c'est pareil, ça a été un gros gros phénomène, puisque à la base, Nintendo of America était au bord de la faillite. Et il y a un jeu donc qui s'appelait Radarscope qui a pas très très bien marché. Et ils ont décidé en fait de récupérer les bandes de Radarscope pour créer un autre jeu à partir de ces bandes-là. Et ça a donné le fameux Donkey Kong et ça a été un tel succès que ça a sauvé Nintendo of America et forcément Nintendo tout court.
Mais alors, vous disiez qu'il était charpentier, Mario. Moi, je pensais qu'il était plombier. Hein.
Exactement, mais il était charpentier au début. Il était charpentier au début dans cette aventure. En fait, il porte un marteau justement pour détruire... à un moment, il y a un bonus et on peut attraper un marteau qui détruit les tonneaux. Mais ouais, il était charpentier.
Mais il avait déjà, dès le départ, le look qu'il a aujourd'hui.
Disons qu'il a, oui, il avait quand même ce look. Alors la particularité de Mario, c'est que les technologies de l'époque étaient tellement limitées que les créateurs de Nintendo pour dessiner le personnage, Ils lui ont mis une casquette et une moustache, puisque ça évitait d'animer les cheveux ou d'animer la bouche, par exemple.
D'accord, effectivement.
Donc, à quoi c'était ça vraiment tient, pour gagner du temps.
Oui, donc casquette rouge, gants blancs, moustache et salopette bleue. Aujourd'hui, Mario, c'est la série la plus vendue hein, de toute l'histoire du jeu vidéo. Comment est-ce que vous expliquez ce succès incroyable?
Ben, en fait, Nintendo a totalement inventé le jeu de plateforme. Alors, il y a différentes raisons à ce succès. C'est que déjà le premier Mario. Alors, certes, il y a eu le Mario Donkey Kong en arcade. Et puis à la suite, il est arrivé sur console. Et quand il est arrivé sur console, en fait, il s'agissait du tout premier jeu qui avait ce qu'on appelait un scrolling. C'est-à-dire que avant les jeux, on passait d'un tableau à un autre. Et il y avait une espèce de transition entre le premier tableau, le deuxième tableau, etc. Alors que là, le décor défilait complètement. Et la différence également par rapport aux autres jeux, c'est que les jeux à l'époque étaient assez sombres. Mario, Super Mario Bros, en fait, était très coloré. Le ciel était bleu, les nuages, avaient ses petits yeux. Enfin, c'était très mignon, etc. Et Nintendo a tout simplement réussi à créer le jeu de plateforme tel qu'on le connaît avec les blocs points d'interrogation, les pièces à récupérer, quand on sautait sur les ennemis, ils s'aplatissaient. Mais quand on retrace en fait l'histoire de ce jeu, on se rend compte que les créateurs, pendant un moment, ils ont pensé à mettre un pistolet dans les mains de Mario. Et finalement, ça s'est pas fait. Ils ont continué à partir sur l'idée du saut. Et puis ils ont créé tout un univers à partir de ce personnage. Et puis ça a été un succès phénoménal parce que le jeu innovait énormément à l'époque par rapport aux autres jeux.
Régis Monterrain qui publie Génération Jeux Vidéo chez GM Édition. Alors vous nous expliquiez, Régis Monterrain, à l'instant, que Mario était le héros qui avait fait en quelque sorte passer les joueurs de l'atmosphère enfiévrée des salles d'arcade à l'intimité familiale du canapé au salon via les consoles. Il y a eu aussi les micro-ordinateurs. On peut dire que les deux se sont développés de façon parallèle ou bien successive?
Non, c'était vraiment parallèle. En fait, le micro-ordinateur, on va dire qu'il était surtout occidental. C'était vraiment un marché occidental, beaucoup plus qu'au Japon, même s'il existait un marché japonais de la micro-informatique, mais c'était pas développé de la même façon. Et on va dire que les consoles de jeux étaient très japonaises. Enfin, c'est vraiment au Japon que les consoles de jeux se sont démocratisées. Chez nous, c'était vraiment, en tout cas au début des années 80, etc., c'était vraiment la micro-informatique, les micro-ordinateurs. Et alors la différence tient sur peut-être l'attente du public et le fait que, également, en 1983, il y a eu un crack du jeu vidéo qui fait que les investisseurs en Occident ne voulaient plus du tout entendre parler de consoles de jeux vidéo, enfin de jeux vidéo en général. La micro-informatique avait cette particularité de proposer certes du jeu, mais pas uniquement. Et ça a permis en fait à plusieurs fabricants, je pense notamment à des fabricants comme Amstrad, Commodore par exemple, de pouvoir développer un marché de la micro-informatique en Occident.
Donc le Commodore avec Jack Tramiel. Alors il y a là aussi une photo puisque votre livre est vraiment richement illustré. C'est un one shot là pour utiliser un anglicisme parce qu'il y en a beaucoup dans le monde du jeu vidéo. C'est un appareil comme ça qui est arrivé sur le marché, qui a remporté un certain succès et puis après plus rien.
Pour le Commodore.
Oui.
Le Commodore, en fait, Monsieur Tramiel, c'est à la base comment on faisait des machines à écrire. Et puis petit à petit, il a évolué vers l'informatique. Après, c'est vrai que c'était c'était quand même des machines qui étaient destinées à un public averti, puisque même du côté de Apple avec Steve Jobs et Steve Wozniak, l'Apple II, par exemple, c'était vraiment des machines qui étaient assez complexes. Donc, on va dire qu'au début, il y avait un marché, mais qui était quand même pour les connaisseurs. Et c'est vraiment au fil du temps comme ça que la micro-informatique s'est démocratisée en facilitant son utilisation. Mais l'histoire de Jacques Tramiel est vraiment intéressante dans le sens où lui, il était d'abord chez Commodore, et puis ensuite il a atterri chez Atari, c'est le cas de le dire. Et il y a eu il a voulu vraiment se venger de son ancienne firme qu'il l'avait virée en développant une machine qui a fait grand bruit à l'époque, qui était l'Atari ST.
Alors côté américain, donc c'est plutôt à travers le micro-ordinateur que petit à petit et à un rythme relativement mou, si j'ose dire, le jeu vidéo a commencé à se populariser. Côté japonais, c'est clairement la console qui sert de support avec Nintendo. Et là, il y a deux générations différentes, là, Game & Watch au début des années 80 et puis à la fin des années 80, la Game Boy. Vous nous expliquez les différences entre les deux et l'évolution technique ?
Mais l'évolution technique, elle est simple, c'est-à-dire que le Game & Watch, qui est né d'ailleurs d'une pure coïncidence, puisqu'en fait le président japonais de Nintendo avait une réunion avec l'entreprise Sharp, et ce président avait une voiture étrangère avec le volant, donc si je me trompe pas, à gauche, ou
ouais, ça doit être oui, ça. Oui, à gauche au Japon, normalement, oui.
Voilà, donc il avait le volant de l'autre côté, et la seule personne qui avait le même type de voiture dans l'entreprise était justement Gunpei Yokoi, qui était un inventeur de jouets chez Nintendo, qui a vraiment fait plein de jouets à succès au Japon. Et il s'est retrouvé dans la voiture avec son président. Alors au début, il était pas très content parce qu'il dit bah je suis inventeur, je me retrouve à être chauffeur. Et il s'est retrouvé dans la voiture à parler avec son président en disant ça serait bien quand même qu'on puisse faire des petits jeux un peu comme des calculatrices qui permettraient de faire passer du temps aux salariés, etc. Parce qu'il avait eu l'idée en voyant justement un homme qui s'ennuyait dans le train en train de tapoter sa calculatrice. Et donc tout est parti de là, c'est-à-dire qu'en fait le président de Nintendo japonais avait une entrevue avec Sharp, qui est un créateur d'écran, qui est un fabricant d'écran. Et puis, le Gunpei Yokoi se disait bon bah c'est une histoire qui va pas aller plus loin. Et puis il a eu la surprise justement que son président revienne quelques jours plus tard en lui disant bah tu m'as parlé d'un petit gadget qui permettrait de jouer en déplacement. Je te donne le feu vert. Et ça a donné les Game & Watch, qui sont des jeux électroniques tels qu'on les a connus dans les années 80. Donc c'est vraiment des animations figées qui se déplacent par à coup. La Game Boy, c'est vraiment différent, parce que là, on se retrouve vraiment avec une vraie console de jeu, dans le sens où les jeux sont totalement animés, tels qu'on les connaît aujourd'hui. La particularité de la console, c'est qu'elle est en noir et blanc, même vert, pour tout dire. Et elle avait justement, grâce à cette monochromie, elle avait justement une autonomie qui était exceptionnelle à l'époque. Et ça a fait un succès colossal, surtout que cette console portable a été proposé avec Tetris, le fameux jeu russe de Casbrick.
Et puis dans les années 80, il y a aussi un concurrent américain pour Nintendo, c'est Sega.
Exactement. Alors Nintendo, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont développé, alors à l'époque c'était la Famicom au Japon et c'est devenu la NES, la Nintendo NES chez nous. Donc ils l'ont sorti à peu près au milieu des années 80. Sega, de son côté, avait également des consoles au Japon, mais qui étaient vraiment... C'était des succès d'estime, mais sans plus. Et ils ont commencé à avoir une console qui était relativement puissante, plus que la NES. Ils l'ont développée justement à l'international. Et d'ailleurs c'est l'Europe qui a permis à Sega vraiment d'exister durant cette époque. C'est vraiment l'Europe. Et en partant de ces consoles, il y a une vraie confrontation commerciale qui est née entre les deux, puisque d'un côté on avait Mario, et par la suite on a eu le fameux Sonic, le hérisson bleu, qui était une mascotte en confrontation avec Mario.
Et puis dans les années 90, la concurrence va se corser avec la PlayStation de Sony, donc le géant japonais. Et là, votre chapitre, vous avez choisi de l'intituler « Un coup de maître ». Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce que Sony, en fait, le créateur de la PlayStation, pensait à créer du jeu vidéo depuis longtemps. Il était notamment attiré par une machine qui faisait de la 3D, qui était utilisée pour des films au cinéma américain. Et il avait vraiment l'idée d'utiliser ce qu'il voyait justement sur ces images de synthèse dans le jeu vidéo. Et un peu seul contre tous, parce que certes, il avait quelques collègues avec lui, il a réussi à pousser Sony à développer cette console de jeu, notamment grâce à son président, puisque son président croyait au projet et lui a donné des coups des franches. Mais s'il lui a donné l'autorisation de créer cette console, c'est aussi parce que Nintendo, avec Sony, avait à l'époque une coopération pour créer un lecteur de CD-ROM, un lecteur de CD, pour la Super Nintendo. Et ce qui s'est passé, c'est que au dernier moment, Nintendo a, entre guillemets, trahi Sony en travaillant avec Philips. Le lecteur de CD n'est jamais sorti au final, mais Sony n'a jamais oublié cette trahison, entre guillemets. Et le président, en fait, le créateur de la PlayStation a fait comprendre à son président, mais vous vous rendez compte ce qu'ils nous ont fait, etc. Et donc, il a joué sur ces sentiments-là pour pousser son président à lui donner le feu vert. Et ça a donné la PlayStation, qui est une console techniquement incroyable à l'époque, avec de la 3D. Donc, c'est une technologie qui a été adaptée de ce qu'on voyait un peu au cinéma. Puisque les premières démos, par exemple, c'était une tête de T-Rex. Donc comme Jurassic Park, exactement à l'image de Jurassic Park en 93. Et en fait, la particularité de cette console, c'est qu'en plus d'être très puissante, Sony était un empire de l'électronique qui avait une trésorerie colossale pour développer une communication importante, notamment internationale, et auprès des adultes, et ça a donné donc du coup une console très puissante, une grosse communication, avec une communication tournée vers les adultes et très sérieux, enfin entre sérieux et parodique, et ça a donné le succès qu'on connaît.
En 2001 arrive la Xbox de Microsoft. Alors donc, si j'ai bien compris, Nintendo, Sega, Sony, PlayStation, Microsoft, Xbox, et les Européens dans tout ça, Régis Monterrain, ils sont où?
Alors les Européens dans tout ça, les fabricants de consoles, il y en a pas vraiment, à vrai dire, qu'on pu émerger. L'Europe a cette particularité donc de, alors elle a eu quelques micro-ordinateurs. Il y a notamment eu en Angleterre un micro-ordinateur qui a très bien marché, qui est le ZX Spectrum. Alors ça a pas très bien marché hein, chez nous. Hein. Ça a été vraiment plus un succès d'estime. Donc, en Europe, c'est vrai que c'était surtout des fabricants de micro-ordinateurs. Et pour la partie console, en fait, les Européens se sont détachés grâce à leur créativité. C'est-à-dire que les studios européens, quand on parle de jeux vidéo, et notamment au niveau français, c'est vraiment des jeux qui sont sortis du lot et qui ont permis de se développer à l'international. Mais la réputation française et européenne au niveau des jeux, c'est vraiment créé en termes de création de jeux vidéo purs, pas du tout de création de fabrication de consoles ou d'appareils.
Un petit bond dans le temps, on se retrouve en 2009, Régis Monterrain, avec les Angry Birds, qui ont été développés, je parle sous votre contrôle, par un designer finlandais, Jaakko Ilsalo. En quoi ce développement est-il une date importante dans l'histoire du jeu vidéo ?
Alors c'est une date importante tout simplement parce que ça a permis de démocratiser le jeu sur smartphone, sur les téléphones portables. À la base, son créateur a juste dessiné comme ça des petits personnages rigolos, des petits oiseaux un petit peu énervés. Et l'idée au début, c'était vraiment de balancer justement ces oiseaux sur des structures un peu ballantes quoi en fait. Enfin un petit voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que le concept du jeu, il avait du mal à le trouver. Et donc il a eu l'idée de rajouter donc une espèce d'élastique en fait pour qu'on tire, pour envoyer son oiseau et pour apporter du corps en fait à son univers, il a inventé des cochons inspirés de la grippe. Alors si je sais plus, non, ça n'est pas la grippe aviaire, la grippe porcine, voilà. Et en fait, il a créé un univers où les oiseaux doivent détruire des structures tenues par des cochons verts. Et en fait. Ce jeu était tellement prenant, à l'image d'un Tetris en fait sur Game Boy, que ça a vraiment cartonné et ça a permis de développer vraiment le jeu vidéo sur mobile.
L'avenir du jeu vidéo aujourd'hui, c'est clairement la réalité virtuelle ?
Alors, la réalité virtuelle, c'est vrai qu'elle remonte à très longtemps. Je vais pas vous mentir que moi, quand j'ai fait mes recherches, je m'attendais pas à les remonter si loin.
Bah oui, dès les années 50, le Sensorama, ce que vous nous racontez, moi aussi je suis tombé de ma chaise.
Et en fait, même quand on remonte encore plus loin, on se rend compte que à l'époque, pour les lunettes et tout, ils essayaient de trouver des petites choses. Mais le Sensorama est vraiment intéressant parce qu'en fait, on se retrouve avec une technologie qu'on retrouve un peu au Futuroscope aujourd'hui quand on regarde un film et qu'on a des petites gouttes d'eau qui sont balancées sur notre visage. Et le Sensorama, c'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, on était dans une cabine, il y avait un ventilateur qui simulait le vent, il y avait une espèce de jet d'eau qui nous aspergeait comme ça, enfin des petites choses amusantes pendant qu'on regardait un film, par exemple un avion qui survole la campagne ou ce genre de choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la réalité virtuelle, pendant très 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 longtemps, elle a été au cœur des expérimentations des studios de jeux vidéo, mais la technologie n'était pas suffisamment poussée pour pouvoir atteindre quelque chose qui soit vraiment convaincant. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis, on va dire, 2015, c'est une technologie qui est en train d'évoluer à une vitesse grand V, et on se retrouve avec des casques qui, à la maison, en termes de sensations, on n'est pas loin de ce qu'on pouvait avoir à l'époque au Futuroscope. C'est-à-dire que on avait vraiment l'impression d'être complètement immergé dans des univers. Alors, c'est vrai, certes, pour le jeu vidéo, mais l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut, par exemple, visiter un musée, on peut regarder un tableau sous toutes les coutures, on peut, par exemple, participer au décollage d'Apollo 11 ou Apollo 13. Donc c'est vraiment se retrouver comme ça dans des expériences qui sont très immersives. Et oui, c'est clairement un des axes du futur du jeu vidéo.
Merci beaucoup Régis Monterrain pour toutes ces histoires et la grande histoire et les petites histoires du jeu vidéo que vous racontez donc dans ce livre passionnant en texte et en images. Génération jeux vidéo paru, je le rappelle, aux éditions GM. Merci beaucoup. La chanson d'Astérix du grand orchestre du Splendid dans VMDN sur RFI. Et figurez-vous qu'avec son copain Obélix, Astérix revient sur le devant de la scène. Et il faut croire que les Gaulois ont plus d'un tour dans leur potion magique, car malgré le décès en mars dernier de leur dessinateur Albert Uderzo, un tout nouveau format vient de sortir, tout nouveau. Non, faisons un petit bond dans le temps avec Fanny Blachner.
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Nos ancêtres les Gaulois ont été vaincus par les Romains après une longue lutte. Toute la Gaule est occupée. Toute ? Non. Non, car un petit village résiste victorieusement à l'envahisseur.
Astérix et Obélix sont de retour avec le Menhir d'Or, un scénario déjà paru en 1967, mais qui était tombé dans l'oubli, explique Céleste Turug, directeur général des éditions Albert René.
C'est une histoire originale, et qui avait connu un très gros succès à l'époque, mais qui depuis n'avait pas été republiée, et donc qui n'était pas ou mal connue des générations actuelles.
Et ce n'est pas une bande dessinée, mais bien un album aux figures de grandes planches, accompagnées du texte des dialogues. Le tout est bien sûr restauré, toute la difficulté étant que les dessins de l'époque ont disparu.
Nous n'avions pas les illustrations originales de l'époque réalisées par Albert Uderzo, donc il a fallu repartir d'un document imprimé.
Cette voix, c'est celle de Régis Gréban, directeur artistique des éditions Albert René. Il a travaillé durant 4 mois sur ces planches auxquelles il fallait redonner vie.
Si vous regardez le 33 tours de l'époque avec les livrets et les impressions, les couleurs sont ternes. Et ça, c'était dû surtout aux techniques d'impression de l'époque.
Autre difficulté à laquelle l'équipe a été confrontée, elle concerne la qualité des images obtenues.
Alors, il faut savoir que lorsqu'on scanne des documents imprimés, en l'occurrence, ici, cette pochette avec les livrets et les illustrations, on a forcément une déperdition de l'illustration. On a forcément un effet de trame. Il y a déjà une étape de nettoyage, enlever les imperfections, les taches, et ensuite retoucher les couleurs une par une.
Que les dieux soient avec vous! Que tout Attis et Belénos vous protègent!
Le trait noir des illustrations, qui vient renforcer les illustrations, était un petit peu abîmé par endroits, terni, voyez les lettrages dans les textes. Donc il y a un travail de retouche aussi du trait de manière numérique.
Le tout sous l'œil avisé d'Albert Uderzo, peu avant sa mort, les deux hommes ont collaboré durant 40 ans.
Les éditions Albert René lui ont soumis le projet et on lui a montré au fur et à mesure les étapes. Il était ravi de voir, de redécouvrir ses illustrations qu'il avait lui-même presque oubliées, quoi. Il l'a contrôlé jusqu'au bout et il était ravi du travail de retouche.
Un travail d'équipe très méticuleux et en se penchant de si près sur le travail de René Goscinny et Albert Uderzo, quelques petites erreurs ont été relevées.
Ah, c'est la meilleure !
Parfois, il y avait quelques petites différences entre les couleurs sur certains personnages, sur Assurance Tourix notamment. Mais bon, ça c'est commun, c'est à beaucoup d'albums de BD, hein, on trouve toujours des petites erreurs quand on reprend plusieurs années après.
Le résultat est là dans cette version restaurée, le barde Assurance Tourix retrouve toute sa magnificence. C'est lui, le héros de cette histoire, construite autour d'un concours de chant réservé au barde gaulois. Le vainqueur remportera un menhir d'or.
Menhir mon temps, mais oui.
Le livre est accompagné d'une bande audio qui a été réenregistrée pour cette sortie.
À l'époque, c'était un format livre-disque et aujourd'hui, on a voulu le publier dans un format album, justement pour pouvoir avoir une œuvre qui s'intègre à nos collections et donc qui retrouve sa place dans les bibliothèques.
Le format audio est disponible gratuitement en ligne sur le site internet astérix.com ainsi que sur les principales plateformes de livres audio.
C'était Fanny Blechner dans VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain pour évoquer un autre héros mythique de la BD, Tintin, avec Jacques Langlois, un ami d'Hergé, qui publie un petit éloge de Tintin aux éditions François Bourin. Et vous m'en direz des nouvelles.